Défi. RFI, 5h à Paris et à Kinshasa, il est 6h à Goma. Un nouveau journal avec vous, Marion Cazeneuve, bonjour.
Bonjour Nemo, bonjour à tous.
Et à la une de cette édition, la situation à Goma.
Affrontement entre l'armée congolaise et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda, ces violences déclenchent aussi la colère de manifestants dans la capitale. Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni une nouvelle fois en urgence il y a quelques heures. Aux États-Unis, l'administration Trump s'attaque aux fonctionnaires pour faire baisser les effectifs. Elle propose des indemnités à ceux qui veulent partir. À Los Angeles, les pompiers poursuivent leur combat contre les incendies. Incendies dus au réchauffement climatique, c'est ce que vient de conclure une étude scientifique. Et puis en football, la fin du premier tour en Ligue des Champions. 18 matchs prévus aujourd'hui, dont un Stuttgart-PSG. Un calme précaire à Goma. La journée d'hier a été marquée par des violences, des tirs dans cette ville de l'est de la RDC, où l'armée congolaise combat les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Au moins 100 personnes ont été tuées ces derniers jours. Plus d'un millier a été blessé, selon l'AFP, qui a compilé plusieurs bilans hospitaliers. Ces combats ont aussi fait plus d'un demi-million de déplacés, selon le ministère congolais des Affaires étrangères. Les tirs à Goma se sont calmés dans l'après-midi, alors que la capitale, Kinshasa, a été secouée par des manifestations, des incendies, des pillages visant des commerces mais aussi des ambassades. L'ONU continue de partager son inquiétude sur la situation sur place. Le Conseil de sécurité s'est réuni une nouvelle fois en urgence il y a quelques heures à New York, Karine Auton.
Depuis le premier conseil de sécurité sur les affrontements autour de Goma dimanche, les voix se sont faites plus nombreuses pour demander au Rwanda de lâcher les miliciens du M23. L'ambassadeur chinois a pour la première fois été explicite. Seule la Russie et les trois pays africains du conseil, Algérie, Somalie et Sierra Leone, ainsi que leur allié le Guyana, se sont refusés à désigner Kigali comme responsable. Des observateurs supposent qu'ils attendent la position officielle de l'Union africaine. Or, cette prise de position ne devrait pas avoir d'influence sur ce qui se passe à New York, selon la chef de la diplomatie congolaise, Thérèse Kayikwamba-Wagner.
Jusqu'à quand le Rwanda continuera-t-il d'abuser votre respect? Quel instrument international doit-il encore violer pour que ce Conseil prenne enfin les mesures nécessaires contre Kigali? Laisser cette crise s'enliser sous prétexte qu'elle serait un problème africain, nécessitant une solution africaine, revient à trahir l'esprit de solidarité internationale qui fonde cette organisation.
Une responsable de la MONUSCO a décrit une situation sécuritaire qui se dégrade, des cadavres jonchant les rues de Goma et les installations de la Croix-Rouge internationale étant débordées. Elle a mis en garde contre les risques d'attaques sur des bases ethniques dans l'est de la RDC. Karine Auton, New York, RFI.
Parmi les réactions internationales, la Chine espère que le Rwanda entendra les appels à ne plus soutenir les rebelles du M23. Les États-Unis, par la voix de Marco Rubio, chef de la diplomatie, appellent à un cessez-le-feu immédiat en RDC. Les États-Unis où le président Donald Trump continue d'appliquer son programme, ses promesses notamment pour réduire les effectifs dans l'administration fédérale. Hier soir, des fonctionnaires ont reçu un mail dans lequel l'administration Trump offre des conditions de départ présentées comme avantageuses s'ils ne sont pas heureux à l'idée de rester. Correspondance à Washington de Guillaume Nodin.
Fork in the road, en français, croiser des chemins, c'est l'objet du courriel envoyé ce mardi. La fonction publique fédérale sous Donald Trump, on l'aime ou on la quitte, c'est en substance le message que la nouvelle administration américaine fait passer à ceux qui travaillent dans une partie de ses agences. Le choix proposé est assez simple, revenir en présentiel au bureau à 100% ou annoncer sa démission par courriel, ne pas revenir sur son lieu de travail et être payé 8 mois, c'est-à-dire jusqu'au 30 septembre prochain. Mais le message précise bien qu'accepter ces conditions ne garantit pas que son poste ne sera pas supprimé. Si cela arrivait, les employés fédéraux se verraient traités avec dignité, précise le message. La Maison-Blanche ne fait pas mystère de son souhait de déménager certaines agences et de réduire le nombre des employés. Les responsables cités par la presse américaine estiment que 5 à 10% des employés concernés vont saisir cette offre sans que l'on sache très bien comment ils arrivent à ce chiffre. Les employés fédéraux de certains secteurs comme l'armée, la sécurité nationale, l'immigration et la poste ne pourront pas profiter de l'offre qui est sur la table pour une semaine jusqu'au 6 février. Guillaume Nodin, Washington, RFI.
L'administration Trump tente aussi de geler des milliards de dollars d'aide publique qui servent à financer des allocations, des subventions. Hier, un tribunal fédéral a suspendu ce gel. Il estime que ce gel aurait eu un fort impact, notamment sur la couverture santé de millions d'Américains ou encore par exemple sur la construction de routes. Les États-Unis ou à Los Angeles, les incendies sont toujours actifs. Ces dernières heures, la pluie a ralenti un peu la progression des flammes. Les pompiers, en tout cas, se rapprochent du but. Le dernier bilan, lui, fait état de 29 morts, 16 000 habitations détruites depuis le mois de janvier. Et ces feux ont été aggravés par le réchauffement climatique. C'est la conclusion d'une analyse rapide du World Weather Attribution, l'un des réseaux scientifiques de référence, Pauline Glaise.
Si les feux ont été si intenses, c'est en partie en raison d'une végétation particulièrement sèche. Et selon les chercheurs du World Weather Attribution, le réchauffement climatique, largement lié aux énergies fossiles, a rendu les conditions de chaleur, de sécheresse et des vents qui ont conduit à ces feux 35% plus probables. En Californie, les incendies sont courants en été, mais pas en cette saison, et la faiblesse des précipitations entre octobre et décembre est presque 2,5 fois plus probable dans notre climat réchauffé qu'à l'ère pré-industrielle. D'ailleurs, la période qui offre les conditions favorables aux incendies s'est allongée de 23 jours, et ce n'est pas anodin. Cela augmente le risque qu'un incendie se déclare, comme cela a été le cas ce mois-ci, au moment où les vents dits de Santa Ana soufflent le plus. Des vents forts, cela pose plusieurs problèmes. Le feu se répand plus vite et les pompiers ont plus difficilement recours à des moyens aériens. Enfin, ces incendies montrent un manque d'adaptation. L'étude souligne que les infrastructures hydrauliques n'étaient pas conçues pour combattre des feux aussi rapides. Les chercheurs mettent aussi en avant l'importance de systèmes d'alerte et d'évacuation précoce.
Pauline Glaise. En Inde, au moins 40 morts dans une bousculade au pèlerinage de la Kumbh Mela. Ce pèlerinage hindou est le plus grand du monde. Des dizaines de millions de personnes s'y rendent tous les 12 ans. Cette année, il se déroule dans le nord du pays, à Prayagraj. Les fidèles viennent se baigner au confluent des fleuves sacrés du Gange et de la Yamuna. Et c'est alors que la foule se dirigeait vers les berges qu'il y aurait eu cette bousculade mortelle. RFI 4h07 en temps universel. Face aux États-Unis et à la Chine, l'Union européenne joue des coudes pour s'imposer, elle aussi, parmi les locomotives de l'économie mondiale. Mais sa compétitivité est plombée, notamment par plusieurs facteurs. Alors la Commission européenne monte au créneau et s'apprête à présenter sa boussole pour la compétitivité, avec des mesures, 29 mesures sur l'intelligence artificielle, les règles de concurrence ou encore l'énergie. Sur ce dernier sujet, Nicolas Feldman, l'Europe doit agir rapidement si elle veut rester dans la course.
Parce que le constat est là, avec une énergie en Europe trois fois plus chère qu'aux États-Unis ou qu'en Chine, les entreprises du continent sont moins compétitives. Nicolas Bernance, directeur nouvelle politique industrielle à l'IDRI.
Le gaz est plus cher, l'électricité par conséquent aussi en partie. Alors c'est principalement un sujet important pour les industries qui consomment beaucoup d'énergie. C'est principalement la chimie, la métallurgie et le ciment et les matériaux de construction. Les perspectives sur le prix de l'énergie sont très importantes pour inciter ou pas à l'investissement dans des nouveaux sites ou au réinvestissement dans les sites existants. Et aujourd'hui, la situation européenne est difficile sur ce plan.
Pour rester dans la course, Bruxelles mise donc sur les énergies renouvelables. Elles devront représenter d'ici 2030 plus de 42% du mix énergétique européen. Thomas Pellerin-Carlin, eurodéputé social-démocrate.
La priorité des priorités, c'est nous débarrasser de notre dépendance au gaz. Après, comment est-ce qu'on fait ça? Il faut déployer au maximum les énergies renouvelables le plus vite possible, parce qu'elle nous offre une énergie dont le prix est basé sur le prix du vent, le prix du soleil, et pas le prix du gaz. Et c'est que comme ça qu'on réussira à nouveau à être compétitif.
Ces objectifs seront détaillés le mois prochain. En plus de son plan pour la compétitivité, la Commission doit présenter fin février son pacte pour une industrie propre.
Nicolas Feldman. La Serbie pourrait être secouée par de nouvelles manifestations aujourd'hui, malgré la démission hier du Premier ministre. Milos Vucevic a quitté son poste, espérant mettre fin aux tensions dans le pays. Depuis trois mois, des rassemblements protestent contre la corruption en Serbie. Tout est parti de l'effondrement de la gare de Novi Sad le 1er novembre où 15 personnes ont été tuées. La manifestation de ces dernières semaines rassemble régulièrement des dizaines de milliers de personnes. En Espagne, le gouvernement socialiste de Pedro Sanchez savoure une nouvelle victoire alors qu'il est de plus en plus mis sous pression par la droite. Le gouvernement vient de faire adopter le décret Omnibus, arsenal de mesures sociales, et il le doit à un accord avec les séparatistes catalans. À Madrid, François Musso.
Hausse des retraites, augmentation des aides publiques dans les transports et spécialement à destination des populations les plus jeunes, aide aux milliers de personnes affectées par la terrible goutte froide de fin octobre qui avait dévasté la région de Valence et fait 224 morts, mesures pour protéger les propriétaires insolvables d'expulsion arbitraire, ce sont autant de mesures qui forment ce que l'on appelle ici le décret omnibus qui ont fait l'objet d'un accord entre le pouvoir socialiste et son très imprévisible allié catalan, les indépendantistes de Junts. Ce décret omnibus, c'est comme son nom l'indique, un ensemble de mesures concernant pratiquement tous les secteurs sociaux. Tout ce que le gouvernement souhaitait faire passer ne le sera pas, notamment une fiscalité plus restrictive pour les entreprises les plus prospères et les ménages les plus riches, mais dans l'ensemble, l'essentiel y est. Ce qui a provoqué le manifeste contentement de Pedro Sanchez. Un Pedro Sanchez qui sera certes soumis à un vote de confiance au Parlement, mais seulement de manière formelle, car dans la pratique, cela ne remettra pas en cause la poursuite de son troisième mandat. François Musso, Madrid, RFI.
Le gouvernement socialiste en Espagne peut aussi se targuer d'un bon bilan en matière d'emploi puisque le taux de chômage est au plus bas depuis la crise financière de 2008. Les derniers chiffres publiés hier font état d'un taux de 10,61% de chômage fin décembre contre 11,76% fin décembre 2023. Sagesse et renouveau, les thèmes à venir pour l'année du serpent, c'est le nouvel an lunaire aujourd'hui pour 1 milliard de personnes qui entrent donc dans cette année du serpent. Celle du dragon vient de s'achever. Depuis hier, les Chinois profitent de vacances, 8 jours de congés consécutifs où la tradition prévoit des repas en famille, des spectacles traditionnels. La coutume veut aussi que l'on fasse exploser des pétards pour chasser les mauvais esprits. En football, 18 matchs ce soir en Ligue des Champions pour la fin de la phase de groupe. Le PSG, pas encore qualifié, se déplace à Stuttgart. Après leur belle performance face à Manchester City la semaine dernière, les Parisiens ont les moyens de se qualifier pour les huitièmes. Mais gare à l'excès de confiance pour un club qui a souvent vécu des désillusions par le passé, Cédric de Oliveira.
Mercredi dernier, dès le coup de sifflet final, l'euphorie était palpable pour le PSG et ses supporters. Après avoir vaincu Manchester City, ce match face à Stuttgart ne devrait être qu'une formalité.
Moi, je suis plutôt confiant. On a fait le plus dur. Il n'y aura pas de souci.
Ouais, Stuttgart, ils font des plutôt bons résultats. Et avec la performance face à City, victoire obligatoire et confiant.
En une soirée, en marquant 4 buts à l'armada anglaise, le PSG a effectivement balayé les doutes qui l'accompagnent souvent en Ligue des Champions. Mais pour Lucas Hernandez, ce festival ne servira à rien si son club retombe dans ses travers.
La semaine dernière, c'était un petit exploit, mais si on arrive ici et qu'on perd le match et qu'on est éliminé, on va retenir que ça. Il va falloir se focaliser à être prêt. C'est le match aussi important ou plus important que celui de la semaine dernière.
Avec 10 points comme Stuttgart, Paris n'est pas à l'abri, d'autant que son adversaire est vice-champion d'Allemagne en titre et doit aussi faire un bon résultat pour se qualifier. Pour l'entraîneur parisien Luis Enrique, son équipe doit être entreprenante et ambitieuse.
On est tous conscients de ce qui est en jeu. On sait tous qu'on n'a encore rien fait. On doit assurer notre qualification et on doit gagner pour ça. L'objectif est le même à chaque fois, contre Gérone lors du premier match ou ici pour le dernier. On a la pression, mais on adore ça.
S'il ne s'incline pas, il pourrait franchir l'écueil de ce premier tour pour la 13e saison consécutive. Cédric de Oliveira, Stuttgart, RFI.
Stuttgart, PSG, coup d'envoi, 20h, temps universel. Un match à suivre dans une soirée spéciale sur RFI à partir de 19h40 TU. Pour l'heure, 5h13 à Paris, 4h13 en temps universel. On reste ensemble pour un tour du monde de l'actualité internationale.
Marion Cazanov.
On parlait dans le journal de ces affrontements en RDC entre les rebelles du M23 et l'armée congolaise, rebelles soutenues par le Rwanda. On verra pourquoi le Royaume-Uni commence à s'éloigner, à prendre ses distances de son allié rwandais. Le reportage international nous emmènera en Argentine, où les acteurs de la filière bovine espèrent la validation prochaine de l'accord du Mercosur, accord qui permettrait aux Argentins, aux Sud-Américains de mieux s'imposer sur le marché européen. C'est encore sous le soleil de Marseille que se déroule le dernier film de Robert Guédiguian, La Pivoleuse, qui sort en salle ce mercredi. Le réalisateur est notre invité culture. À quel moment nos symptômes justifient-ils de se rendre aux urgences? C'est le thème du Conseil Santé du jour. On terminera cette tranche d'information en musique avant le retour de l'actualité africaine sur RFI. on en parlait donc dans le journal, la poursuite des affrontements à Goma, dans l'est de la RDC, et les manifestations dans la capitale Kinshasa. Plusieurs ambassades ont été attaquées hier, alors que les Nations Unies partagent, elles, encore une fois, leur inquiétude sur la situation dans le pays. On retrouve à Londres notre correspondante Emeline Vin. Emeline, le Royaume-Uni fait partie de ceux qui condamnent ces violences.
Par la voix de son ambassadeur au Conseil de sécurité et par celle de son ministre des Affaires étrangères, la diplomatie britannique a rendu hommage aux casques bleus de la MONUSCO qui ont été tués, mais surtout elle a exprimé sa profonde inquiétude quant à l'échelle et la rapidité de l'avancée des rebelles du M23 dans l'est de la RDC. L'ambassadeur à l'ONU, James Kiriuki, a dénoncé l'obstruction par le Rwanda de l'action humanitaire des Nations Unies. Et ce dimanche, le ministre David Lamy a téléphoné directement au président rwandais Paul Kagame pour l'appeler à la désescalade nécessaire au retour de Kigali et de Kinshasa à la table des négociations.
Et pourtant, Londres est bien un allié du Rwanda.
Oui, jusqu'à l'été dernier, le Royaume-Uni était même l'un des plus fervents soutiens occidentaux du Rwanda. Un appui diplomatique, financier, culturel, qui reposait sur le Commonwealth déjà, que le Rwanda a rejoint en 2009. Et plus récemment, sur un partenariat entre les deux pays. Un partenariat migratoire de délocalisation du système d'asile britannique au Rwanda. Ce partenariat ne s'est finalement jamais concrétisé en raison de recours judiciaires. Ses opposants pointaient les manquements en matière de droits humains au Rwanda et de traitement des minorités. Donc pendant plusieurs années, pour contrer ces inquiétudes, Londres a défendu Kigali, y compris sur la scène internationale, quitte parfois à se taire sur certains sujets, dont le soutien rwandais au M23. Le partenariat migratoire, il a été enterré avec l'arrivée du nouveau gouvernement travailliste en juillet, mais cette prise de parole marque tout de même un net tournant dans la relation rwando-britannique.
Et comment s'explique ce revirement, Emeline ?
C'est compliqué à établir précisément, cela faisait un moment que des représentants de la société civile, des associatifs, des chercheurs appelaient le gouvernement à user de son influence auprès du Rwanda pour calmer l'action du M23 dans l'est de la RDC. C'était compliqué tant que le partenariat migratoire était en place avec des accords financiers. Maintenant, Londres ne doit plus rien au Rwanda et ce dernier a éteint tout espoir de remboursement. Autre élément de réponse, la stratégie africaine du gouvernement travailliste. Le Royaume-Uni espère regagner en influence sur le continent, une influence érodée par la présence chinoise. Si le Royaume-Uni parvient à ramener tout le monde autour de la table des négociations, ce serait une victoire diplomatique non négligeable, mais encore, il faut le dire, très hypothétique.
Emeline Vin, correspondante de RFI à Londres. Les agriculteurs européens continuent de se mobiliser contre le Mercosur, cet accord de libre-échange entre l'Union européenne et les pays du Mercosur, à savoir l'Argentine, le Brésil, le Paraguay et l'Uruguay. Ce projet divise les 27. La France, par exemple, s'inquiète pour sa filière agricole, tout comme la Pologne. Mais d'autres, au contraire, y sont clairement favorables. C'est le cas de l'Allemagne. De l'autre côté de l'Atlantique, en tout cas, la filière bovine espère que cet accord finira par être validé après 25 ans de négociations. Le reportage de notre correspondant en Argentine, Théo Conscience.
8h du matin, la cloche sonne le début d'une nouvelle vente aux enchères au marché au bétail de Cañuelas. Perché sur une passerelle au-dessus des enclos de bovins, un homme décrit les caractéristiques des bêtes dans un mégaphone pour les vendre aux plus offrants. Nous sommes dans le plus grand marché au bétail d'Argentine. Ce jour-là, plus de 9000 vaches sont mises en vente pour le marché domestique, mais également international. Oscar Subarroca est négociant en bétail.
Nous vendons aux exportateurs des vaches de caractéristiques Hilton. Ce sont des bêtes de première qualité, très recherchées, et qui peuvent être vendues à l'Union européenne.
S'ils restent les premiers consommateurs de viande rouge au monde avec 42 kilos par an et par personne, les Argentins n'ont quasiment jamais consommé aussi peu de viande de bœuf que l'an passé, sur fond de crise économique et de pouvoir d'achat en berne. Dans ce contexte, le possible accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur, qui prévoit des baisses de taxes et l'ouverture de nouveaux quotas d'importation, pourrait réactiver la filière, selon Oscar Subarroca.
Notre cheptel national a diminué. Nous avons 51 millions de têtes de bétail contre 60 millions il y a encore quelques années. Cet accord pourrait inciter les éleveurs à recomposer leur cheptel afin de pouvoir exporter.
En attendant, certains éleveurs se préparent déjà pour le marché européen. C'est le cas de Carlos Montbalé, qui a un feedlot, un parc d'engraissement de quelques 100 000 bêtes non loin de Canoelas.
Nos vaches sont très prisées sur le marché. Leur viande se retrouve sur les tables des meilleurs restaurants du pays. L'objectif final, c'est d'obtenir l'autorisation pour exporter.
Pour obtenir cette autorisation d'exporter, les producteurs doivent respecter certaines conditions. En Argentine, l'utilisation d'hormones de croissance est interdite depuis 2004 pour les vaches dont la viande est destinée au marché européen. Le poids et l'alimentation des bêtes est également régulé. Mais selon Carlos Montbalé, se conformer à ces normes n'est pas un problème.
Il n'y a pas besoin de faire de grands investissements. Il faut avoir une très bonne traçabilité et un régime sanitaire et alimentaire strict.
La question de la traçabilité est centrale du point de vue sanitaire, mais également en raison du règlement européen sur la déforestation. Dans le nord de l'Argentine, l'avancée de la frontière agro-industrielle a fait disparaître plus de 100 000 hectares de forêt depuis le début de l'année, selon Greenpeace. Théo Conscience, de retour de Canuelas, RFI.
Et l'Argentine de Javier Milei s'est dite toutefois prête à quitter le Mercosur pour favoriser à la place un accord de libre-échange avec les États-Unis si cela était nécessaire. RFI, 5h20 à Paris et à Marseille. La Pivoleuse, c'est le dernier film du réalisateur français Robert Guédiguian. Il sort aujourd'hui en salle. Les thèmes de la précarité, de la solitude et de l'accès à la culture y sont abordés avec, comme souvent chez le réalisateur, la ville de Marseille comme décor. Cette œuvre reflète bien l'amour du réalisateur pour le soleil et les paysages du Sud-Est, mais aussi son intérêt pour la lutte sociale, les luttes sociales. Robert Guédiguian a parlé de son dernier film avec Lisa Giroldini.
Robert Guédiguian, bonjour.
Bonjour.
Votre nouveau film, La Pivoleuse, raconte l'histoire de Maria, une auxiliaire de vie précaire qui vole quelques euros régulièrement aux personnes âgées dont elle s'occupe. Déjà, tout simplement, comment vous est venue cette idée?
C'est très très simple en fait. C'était mon chef monteur, lorsque nous montions le film précédent, a eu un coup de téléphone, il décroche et... C'est le commissariat et je le vois qui dit « Mais non, je connais très bien cette dame, elle est formidable. Ça fait 20 ans qu'elle s'occupe de ma mère, je l'aime beaucoup. Non, elle m'a rien volé, voilà, moi je la garantis. Bon. » Et il raccroche, il me raconte cette histoire de l'aide ménagère de sa maman qui était au commissariat. Si quelqu'un avait déposé une plainte contre elle. Et voilà, c'est venu de là. Je me suis dit « Tiens, si on inventait effectivement donc une histoire à partir de là ?» Et à partir de là, le récit commence, hein, puisque dans le film, évidemment, on dit pourquoi.
On remarque que les maisons, les jardins, les intérieurs sont toujours très soignés avec une belle décoration. Pourquoi c'est un aspect que vous avez particulièrement travaillé?
Les travailleurs modestes, en général, sont des gens extrêmement attentifs à leur intérieur. Ils soignent leur intimité et ils essaient effectivement de le rendre le plus agréable possible. Chez certains personnages avec, je trouve, quelques erreurs, bien sûr, parce que les erreurs viennent du fait, d'ailleurs, qu'ils ont été soumis à une pression, on va dire, une pression médiatique, une pression publicitaire, qui fait qu'ils essaient, là, par contre, de ressembler à la manière dont vivent ou dont se meublent les bourgeois. Et là, ils n'en ont pas les moyens, donc là, ils prennent du toc. Dans le film, il y a quelques décors, en particulier le décor du personnage principal, qui est une espèce de faux luxe, quoi. On voit bien que c'est pas de la qualité, quoi, et que c'est pas très joli. Mais c'est clinquant, en fait, voilà.
Vous filmez le personnage principal de Maria avec un regard très bienveillant, empathique. On devine que pour vous, ces vols sont totalement légitimes en réalité.
Oui. Il participe à la répartition des richesses en faisant ça, hein. Je vous dis, bon. Il lui manque un peu d'argent, elle prend un petit peu ce qu'il lui faut. D'ailleurs, elle le vole avec beaucoup de parcimonie. Hein. Elle prend 10 euros, elle n'en prend pas 20. Elle prend juste ce qu'il lui faut pour pouvoir payer des études de piano à son petit-fils. Et même aussi pour se faire des petits plaisirs. Quoi. Mais je crois que tout le monde a droit à des petits plaisirs. Donc j'aime bien les pis, moi. Les pis en général. Les pis, c'est un mosque qui brille. Mais moi aussi, j'aime ce qui brille, en fait. Ouais. Et puis, elle se paye aussi des heures supplémentaires, d'ailleurs, en faisant ça. Parce qu'elle est très, très dévouée. Et d'ailleurs, au fond, ce qui me choque le plus, en fait, c'est quand elle dit d'elle-même, elle dit « j'étais bête » parce qu'au fond, si je leur avais demandé un peu d'argent, ils me l'auraient donné. Et ça, c'est grave, c'est-à-dire qu'elle n'ose plus leur demander.
Certains personnages qui semblent n'avoir rien en commun, au début, finissent quand même par se comprendre, voire adopter la même attitude, comme par exemple Monsieur Moreau et son fils. Ça vous tient à cœur, ces ressemblances entre les gens?
Oui, parce que je crois profondément qu'on est tous pareils, en fait, voilà. Il y avait un proverbe, un vieux proverbe, qui disait « Faut jamais dire en fontaine, je ne boirai jamais de tonneau ». Effectivement, on ne sait pas ce qui va se passer, voilà. Il peut se passer quelque chose qui fait que on a le même comportement que quelqu'un qu'on a détesté pour ce même comportement quelques années plus tôt. C'est le cas, là, entre le père et le fils. Il arrive au fils, une histoire qui fait penser singulièrement à l'histoire qui est arrivée au père 30 ans auparavant. Et du coup, il va se déjuger par rapport à son père, il va se mettre à le regarder avec plus de tendresse et de compréhension. Et je crois que, finalement, on devrait tous penser ça les uns des autres avant de se juger, parce que il faut quand même penser qu'on est tous pareils.
Merci beaucoup, Robert Guédiguian.
Merci.
La Pivoleuse, nouveau film de Robert Guédiguian qui sort aujourd'hui dans les salles en France.
Le Conseil Santé avec Suno Assurance.
À quel moment nos symptômes justifient-ils de se rendre aux urgences? C'est le thème du Conseil Santé du jour avec Caroline Paré.
Professeur Frédéric Cadenet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes le chef de service du SAMU 75 MUR, hôpital Necker Enfants Malades au sein du groupe APHP. Une question qui se pose très concrètement. Comment savoir quand il faut consulter aux urgences ou lorsqu'un symptôme peut attendre?
Il est très difficile pour les patients d'évaluer le degré d'urgence, savoir si c'est une urgence vitale, hein, comme par exemple un infarctus du myocarde ou simplement des douleurs qui sont complètement bénignes. Alors la meilleure façon d'évaluer son degré d'urgence est de commencer à s'orienter dans un parcours de soins, c'est effectivement d'appeler ce qu'on appelle le SAS, un service d'accès aux soins qui regroupe le SAMU et les soins non programmés, où vous aurez un interlocuteur médical, que ça soit un régulateur hospitalier ou un régulateur de médecine libérale, qui va analyser ce qu'on appelle nous le motif de recours, donc les symptômes que vous présentez, et c'est une analyse difficile parce que par téléphone, et il va vous proposer quelquefois un conseil médical, quelquefois d'aller aux urgences, quelquefois d'attendre et de pouvoir aller voir votre médecin traitant et de prendre un rendez-vous, ou, et ce qui est nouveau, carrément de prendre un rendez-vous par cette plateforme dans un cabinet de médecine générale. Donc, pour répondre clairement à votre question, il est difficile quand même que le patient lui-même puisse évaluer son degré d'urgence.
Merci professeur Adnet. Aujourd'hui dans Priorité Santé, nous allons parler de la goutte, une maladie inflammatoire qui entraîne des crises très douloureuses. Alimentation, sédentarité, génétique, qu'est-ce qui peut favoriser la survenue de la goutte et comment la soigner? C'est à retrouver à 9h10 et 1h10 temps universel et à toute heure en podcast sur l'appli RFI Pure Radio.
À tout à l'heure Caroline Paré. Et avant Priorité Santé à 8h10 temps universel, vous retrouvez Juan Gomez dans Appel sur l'actualité. Vos questions sur l'actualité en première partie, puis vous viendrez débattre sur les relations France-Cameroun après le rapport sur le rôle de la France dans la répression des mouvements indépendantistes du Cameroun entre 1945 et 1971. Rapport qui vient d'être remis à Paul Biya. Appelez-nous 339 693 693 70. Dans quelques minutes, c'est le retour de l'actualité africaine. Nous, on se quitte en musique avec le dernier titre de Damso et Kalash. Le titre s'appelle Alpha.
La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre, ne t'en fais pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. Dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses, anana. Dis-moi bien les choses. Dis-moi bien les choses, anana. J'ai encore merdé. Tu connais la noche, tequila zol. J'pars en couille, j'en mets des mots sur son gros tapé. La soirée est rentable, j'commets l'attentat. J'ai fini dans sa story. J'suis infréquentable, je retiens le temps pas. Que tu connais, tout va trop vite. Dans les dames dames. Dans les chata chata, dans les dames dames. La distance qui nous sépare, toi et moi, ne tiendra que le temps d'un dernier verre, ne t'en fais pas. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. C'est celui-là, c'est ce mal alpha, infidèle, mais qui aime sa femme. My girl, faut tout doux. Où ça, moi, toujours ni un brand new. Pour check, moi, faut vous prendre rendez-vous. Money, you t'en femme qui money tune. Moi, qui t'en choisis, fais le move on true.
Un real Batman, mais ça n'importe qui joue. Moi, vivez caille, maman, et puis y'a pas quel bijou.
J'suis un vagabond, selon ton daron. Il dit que j'suis pas fréquentable, mauvais garçon.
Damso et Kalash avec le titre Alpha, un titre que vous retrouvez dans la playlist du mois de RFI. Dans une minute, c'est le retour de l'actualité africaine.
Ce
mercredi, vivez sur RFI la soirée spéciale Ligue des Champions. Thomas de Saint-Léger.
Dernière journée de la phase de groupe, dernier billet pour la suite du voyage. 18 matchs en simultané, 2 en intégralité. Stuttgart-PSG, un nul suffit à Paris, mais attention à ne pas se perdre en calcul. Et Brest-Real Madrid, affiche de gala à Guingamp. La soirée spéciale Ligue des Champions, c'est ce mercredi à partir de 19h40, temps universel sur RFI.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Écrivain et peintre, Maï Binbin est un enfant du Maroc. À l'occasion du festival de littérature africaine qu'il a créé sur place et de son nouveau roman qui paraît sous le titre « Et le vent nous emportera », un hommage à sa mère, Maï Binbin me recevra chez lui à Marrakech pour un grand entretien.
Littérature sans frontières, Catherine Fruchon-Toussaint.
Vendredi, à partir de 13h30 TU.
RFI.